Au téléphone sonne ce soir donc les abus du démarchage téléphonique à domicile. Vous savez, quand on regrette immédiatement d'avoir répondu à un appel inconnu, mais des appels intempestifs probablement moins nombreux depuis le 1er août, car depuis 15 jours, l'autorité compétente interdit aux commerciaux d'appeler de l'étranger avec de faux numéros français trompeurs. Alors que dit la loi en préparation au Parlement pour mieux protéger les particuliers? Une loi donc pour encadrer encore plus sévèrement ce fichu démarchage téléphonique.
Allô? Bonsoir monsieur, est-ce que je pourrais parler à monsieur Chabumi s'il vous plaît? C'est vous-même? Oh, bonsoir monsieur Chabumi, je me présente, je m'appelle Eric Cahuc et je représente les magasins Agri Nature, la nature au service de l'agriculture. Vous connaissez nos magasins? Non mais c'est pas pour faire chier que... Non, écoutez, soyez polis, monsieur Chabumi, s'il vous plaît. Ne soyez pas grossier, monsieur Chabumi. Hey, oh, dis donc!
Voilà, ça ressemble à du vécu, cet extrait d'un sketch d'Eric Cahuc. Alors certes, il y a le système Bloctel, comme son nom l'indique, mais apparemment Bloctel a montré ses limites. Et ce soir donc, eh bien c'est vous qui nous appelez au téléphone. Et là, on vous promet, vous serez bien reçus. Vos témoignages, vos questions, c'est ce soir au 01 45 24 7000.
Éric Delvaux. Le téléphone sonne.
Avec un premier appel, premier témoignage peut-être pour commencer. Daniel, bonsoir Daniel.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Seine-Maritime. Quel
oui,
est votre témoignage?
Voilà, je reçois sans arrêt des appels téléphoniques commerciaux, comme vous avez dit à l'instant, genre de 30 à 50.
Ah oui,
et qu'est-ce qu'il y a? C'est, je les élimine. Je décroche même pas, je les élimine et ils reviennent. Et plus fort, même quand je décroche mon téléphone, j'arrive à en avoir.
Et donc, conclusion, vous réagissez comment? Vous ne décrochez plus?
C'est-à-dire, il y a des fois, ça peut être un appel sérieux. Hein. Alors, des fois, je suis obligé de consulter quand même. Hein. Mais la plupart du temps, je décroche plus. Bah oui. Hein.
Bien, merci de ce témoignage, Daniel. 50 appels par jour. Eh bien, pour répondre à vos témoignages, vos questions ce soir, deux invités. Christophe Nejlen. Bonsoir, Christophe Nejlen.
Bonsoir.
Député d'hiver droite des Vosges, et vous êtes à l'origine de la loi qui veut encadrer justement le démarchage téléphonique et lutter aussi contre les appels frauduleux. Et puis au téléphone, Alain Bazot. Bonsoir, Alain Bazot.
Oui, bonsoir.
Vous êtes le président de l'association UFC Que Choisir. Vous avez un point de vue assez étayé, trempé sur la question. 30 à 50 appels par jour, vient de témoigner Daniel. Christophe Nejlen, est-ce qu'on a quantifié le nombre d'appels intempestifs du démarchage commercial en France?
Il est énorme, mais c'est pour ça que j'ai voulu porter cette proposition de loi, parce que régulièrement, à ma permanence dans les Vosges, des personnes venaient en me disant, voilà, je reçois 20, 30, 40, 50 appels journaliers. Et c'est pour ça que cette proposition de loi, on différencie deux choses, et vous l'avez bien dit, d'un côté les appels intempestifs.
Oui, on va en reparler. Oui, allez-y quand même, finissez.
Et de l'autre, les appels frauduleux, parce qu'on est dans deux choses complètement différentes.
On parlera des appels frauduleux à la fin de l'émission.
De les différencier. Oui.
Oui, ça peut donc virer au harcèlement téléphonique. Hein, 30-50 appels par jour, c'est tout de même, vous l'avez dit, énorme. Avez-vous eu connaissance chacun de cas particulièrement douloureux? Alain Bazot, président de l'association UFC Que Choisir.
Oui, alors effectivement, on a aussi des témoignages comme celui qu'on vient d'avoir de Daniel, qui est sans doute un cas excessif, mais il faut savoir que nous avions fait une enquête auprès de 12 000 consommateurs, et en moyenne, c'était 4 démarchages par semaine, et puis il y a près de 50% des consommateurs qui se plaignaient d'avoir des démarchages tous les jours. Et dans cette enquête, nous avions également comme statistique que 91% des consommateurs ne supportent plus ces appels. Appels qui, à 71%, sont aux heures de déjeuner. Et dans cette enquête, on a également regardé un peu le bilan de Bloctel, et alors, on avait plus de 80% des consommateurs, donc ça c'est issu de la loi Hamon, hein, c'était en 2016 que ça a été mis en place, ils trouvent que ça a peu baissé.
On va parler donc, de Bloctel dans un deuxième temps, hein. Pour l'instant on fait le constat
en
pour l'instant.
Cas, le bilan, c'est qu'effectivement aujourd'hui, 9 Français sur 10 se disent excédés par ce harcèlement commercial intempestif.
Alors depuis le 1er août, c'est-à-dire depuis 15 jours, a été mis en place par l'ARCEP, c'est-à-dire l'autorité de régulation des communications électroniques, un nouveau dispositif, puisque le démarchage téléphonique a évolué. Qu'est-ce qui a changé, Christophe Naegelen, depuis 15 jours sur ce sujet ?
En fait, ce qu'a recommandé l'autorité, et ce que dit l'autorité de régulation, c'est que maintenant, tous les centres d'appel qui sont basés à l'étranger n'auront plus le droit d'utiliser des numéros géographiques tels que le 01, le 02, le 03, le 04 ou le 05, qui avaient tendance à tromper le consommateur. Et donc, on devra vraiment avoir le numéro d'origine de l'appel. Et donc, quand on est dans des centrales d'appel à l'étranger, ce sera un numéro avec un indicatif étranger. Et donc, forcément, on se doutera plus que c'est un appel intempestif. Et donc, on aura moins tendance à décrocher. Mais ce qui n'empêchera pas les entreprises et ces centres d'appel d'appeler quand même et de déranger quand même. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'une loi pour cela, pour justement empêcher ce démarchage.
On va parler de cette loi dans un instant. Alain Bazot, est-ce qu'on a déjà depuis 15 jours ressenti quelques effets de cette nouvelle règle ? Sait-on déjà s'il y a moins d'abus téléphoniques ?
Non, là, franchement, c'est trop tôt, surtout en cette période d'été. Les gens sont quand même pas mal en vacances. On n'a encore pas, notre observatoire n'a pas encore observé, j'allais dire, d'une évolution significative. Mais il faut pas penser que cette mesure de l'ARCEP, c'est l'alpha et l'oméga. Et ce que disait monsieur le député à l'instant, c'est assez étonnant parce que il saluait la mesure en disant que ça évite aux consommateurs d'être trompés, c'est-à-dire ils décrochent. Et là, ils ne décrochent pas parce que ils ne vont pas décrocher en ayant de façon inattendue d'une plateforme qui vient de l'étranger. Mais précisément, le consommateur, on l'a vu tout à l'heure avec Daniel, on ne sait pas quand on a un appel téléphonique, si c'est un proche, si c'est quelque chose d'important, on a un stress et on ne sait pas si ça va être du démarchage téléphonique. Alors je me demande, c'est une question toute simple, pourquoi ne pas avoir mis en place, ça fait partie d'une demande des associations de consommateurs, un indicatif spécifique quand c'est du démarchage téléphonique. Si on veut que les consommateurs ne soient pas trompés sur la nature des appels, pourquoi ne pas imposer quand c'est un appel qui est un démarchage téléphonique, et bien que le consommateur, avant de décrocher, le voit avec un indicatif, ça pourrait être le 13, ça pourrait être autre chose, mais ce serait simple, concret pour le consommateur, il voit que c'est du démarchage téléphonique, c'est pas un proche, c'est pas autre chose, et bien il ne décroche pas. Pourquoi cette information simple, basique, n'est pas donnée au consommateur pour l'éclairer sur la nature de l'appel, indépendamment de savoir si ça vient de l'étranger ou si ça vient d'en France ?
On va poser la question.
Car on a aussi du démarchage intempestif, et notamment, on le verra après, c'est la niche des arnaques à la téléphone, sur le plan téléphonique. Ce sont des sociétés souvent éphémères et qui sont en France.
On va poser la question au député Naegelen. Est-ce que c'est un amendement qui est passé déjà au Parlement, cet indicatif qui permettrait d'identifier, un 00 pourquoi pas, un indicatif qui permettrait d'identifier que c'est bien un appel commercial qui nous renseigne ?
Non, et pour plusieurs raisons. La première est que dans les entreprises qui font du démarchage, on a aussi des TPE, on a aussi des PME. Or certes, on a des grands groupes, des grandes entreprises qui passent par des centrales d'appel, et quand c'est en provenance de centrales d'appel, là oui, pourquoi pas, on pourrait mettre un indicatif spécifique, mais toutes les petites TPE, toutes les petites PME, ce serait impossible à mettre en place. Donc à un moment donné, j'entends vraiment la problématique, et c'est pour ça que je m'en suis saisi. Néanmoins, il faut faire preuve de pragmatisme et être réaliste aussi sur le sujet. Mettre un indicatif spécifique pour le démarchage et qu'on soit une entreprise de 4-5 salariés, et il y en a, dans les nombreuses auditions qu'on a eues, on a bien vu qu'il y a des entreprises, par exemple, qui commercialisent du miel, un apiculteur qui, oui, a tendance aussi, lui, à démarcher des clients, comme des groupes, des multinationales, et donc, à un moment donné, on peut pas tous les mettre au même niveau.
Le téléphone sonne ce soir sur France Inter avec un nouvel appel 01 45 24 7000 avec Michel. Bonsoir Michel.
Bonsoir. Vous nous appelez je suis excédé par les démarches téléphoniques. Depuis 2 mois, je suis sur liste rouge après avoir changé mon numéro de ligne fixe. Voici ma question. Est-ce que les démarcheurs téléphoniques disposent d'un système de recherche pour finir par trouver mon nouveau numéro ? C'est ce que m'affirment plusieurs connaissances que les démarcheurs ont réussi à retrouver malgré le placement en liste rouge et malgré le changement de numéro. Merci.
Merci de votre question. On va poser la question au président de l'association UFC Que Choisir, Alain Bazot. Y a-t-il des moteurs de recherche qui retournent rechercher des abonnés qui se sont mis sur liste rouge?
Bien sûr, à la faveur de relations qu'on a commerciales, de numéros qu'on donne ici ou là, les numéros s'échangent à la vitesse grand V, les fichiers, et donc aujourd'hui avec la puissance informatique des recherches, on voit bien que on n'a pas de dispositif qui est efficace pour empêcher d'être sollicité. Et tant que le cadre législatif ne changera pas, c'est ce qu'on demande, et sûrement pas ce qui est proposé dans la proposition de loi, qui est le non-événement, dans la mesure où, ce qu'on dit, c'est que il faut nécessairement, comme pour la sollicitation par SMS, comme pour la sollicitation par email, comment se fait-il que la sollicitation par téléphone, on ne demande pas l'autorisation express préalable du consommateur? Je reste stupéfait par la puissance du lobby des entreprises de démarchage téléphonique. Tout à l'heure, monsieur le député parlait des petites entreprises. Alors là, je trouve que c'est l'argument qui est complètement mauvais, dans la mesure où le coût des appels téléphoniques en termes de mobilisation de salariés est infiniment plus coûteux pour une petite entreprise que d'envoyer des SMS ou d'envoyer des mails, des mailings, où ça coûte infiniment moins cher. Donc l'argument que ça aide les PME, il est faux, parce que les grandes prospections massives, ce sont des grandes plateformes, ce sont les grands opérateurs. Quand on a fait une enquête sur quels étaient les grands secteurs qui dérangent les consommateurs, c'est pas les quelques PME. C'est des secteurs comme la rénovation énergétique, comme l'assurance, comme l'énergie, et ce sont que des grands opérateurs, c'est sûrement pas des petites entreprises.
01 45 24 7000 avec Jean-Pierre qui nous appelle de Besançon. Bonsoir Jean-Pierre.
Bonsoir. Bon, ben, je suis comme les gens qui ont appelé avant moi. J'ai écouté le monsieur, c'était le monsieur du UFC, je crois, qui parlait. Et c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de mails qui arrivent de façon intempestive. Mais bon, ça, c'est moins agaçant. Le téléphone, c'est vraiment exaspérant. Il y a beaucoup de 09. Moi maintenant je ne réponds plus. Hein. Quand c'est quelqu'un qui n'est pas sur mon répertoire, je réponds plus parce que j'en peux plus. Et comme je disais à votre collaborateur, depuis quelques semaines, c'est la grosse mode du conseil régional ou du conseil général qui vous appelle pour faire isoler votre maison à 1 €. Et ça c'est une grosse arnaque parce que j'ai appelé et le conseil général et le conseil départemental, c'est pas eux qui font ça.
Alors, ça fait partie des fraudes et des escrocs, on va en parler en fin d'émission.
Voilà. Et alors en plus c'est un disque, donc on peut même pas les fouler en engueulant les gens, quoi, vous voyez. C'est un disque, c'est un truc, et je suis sur Bloctel depuis 3 ans, et je suis sur liste rouge, et c'est exaspérant, ça devient nécessaire. Alors, c'est insupportable. Hein,
merci de ce témoignage, merci Jean-Pierre. Vous êtes donc inscrit sur la liste d'opposition Bloctel, hein, pour les particuliers qui en ont ras-le combiné. Christophe Nejlen, député divers droite des Vosges, avant de voir si le dispositif est efficace, expliquez-nous d'abord concrètement comment on s'inscrit, comment ça marche Bloctel.
En fait, Bloctel, c'est une délégation de service public, une entreprise qui veut faire du démarchage, soit directement, soit en faisant appel à un centre d'appel, envoie son fichier, donc le fichier de numéro qu'il veut appeler, Bloctel l'analyse, retire tous les numéros de personnes qui se sont inscrites sur Bloctel, et après renvoie le fichier ou au centre d'appel ou à l'entreprise. Et donc le fichier en soit bloctélisé et toutes les personnes qui sont inscrites sur le dispositif, leurs numéros ne sont pas dedans. Et c'est pour ça que je vais revenir sur ce que disait le président de l'UFC Que Choisir. D'ailleurs, Alain, je regrette parce que j'ai rencontré un certain nombre de ses collègues de l'UFC, mais pas lui. Et c'est vrai qu'ils sont un peu dans le rôle, c'est-à-dire à un moment donné, on est dans une position qui est une position démagogique et qui ne tient pas compte de la réalité des choses. C'est-à-dire que demain, si on veut demander un engagement préalable, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les entreprises qui le font de manière illégale, que ce soit en France ou à l'étranger, elles continueront à le faire. elles continueront à embêter nos concitoyens. Par contre, les 56 000 emplois directs et les 250 000 emplois indirects, des entreprises qui font ça de manière légale et de manière correcte, eh ben, on perd ces emplois-là. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de vouloir faire uniquement de la démagogie et de raconter n'importe quoi. Et il faut faire preuve de pragmatisme. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans cette proposition de loi. Et d'ailleurs, ces collaborateurs que j'ai eu l'occasion d'auditionner, avec qui j'échange régulièrement, qui travaillent à l'UFC Que Choisir, et qui ont fait partie du Conseil National de la Consommation, parce qu'il y a eu un certain nombre de réunions du Conseil National de la Consommation, justement, pour travailler entre les associations qui représentent les consommateurs, il y avait l'UFC Que Choisir et d'autres, et des entreprises aussi, et ben à un moment donné, on arrivait bien à se rendre compte que non, le fait d'être sur un opt-in, donc un demander déjà l'engagement préalable, l'autorisation préalable, ne marchait pas et n'amenait rien.
On va donner la parole à Alain Bazot, le président de l'UFC Que Choisir, pour qu'il puisse vous répondre. Juste pour la clarté et pour les auditeurs, je rappelle que ce dont on parle là serait une liste non plus pour les personnes qui ne souhaitent pas être démarchées, mais une liste au contraire des personnes qui accepteraient d'être appelées, ce que les spécialistes, et vous en avez parlé, appellent le opt-in. Alors votre point de vue, Alain Bazot ?
Oui, exactement. C'est en fait étendre à cette intrusion massive qu'est le démarchage téléphonique, étendre le système qui existe pour les SMS et pour les mails, c'est-à-dire je dis avant, expressément, si je vais être démarché ou pas. Je ne peux pas laisser passer ce que dit monsieur le député.
Pour quelle raison ?
Les chiffres sur l'emploi sont complètement fantasmagoriques. On a eu, effectivement, on était au CNC, et c'est l'UFC Que Choisir, c'est Cédric Musso, qui était rapporteur du côté des associations de consommateurs. Donc nous connaissons très bien le dossier. On a eu des chiffres complètement farfelus, de deux fédérations. Une qui nous citait des chiffres qui dataient de 2004, on est quand même en 2019. D'autres qui parlaient de 200 000, d'autres de 50 000, en mélangeant dans les plateformes ceux qui font du démarchage téléphonique de ceux qui font du service après-vente. Donc une espèce de boogie-boulga, en nous disant que l'emploi, il est largement à l'extérieur. On est tout content de dire qu'avec la réforme de l'ARCEP, toutes les plateformes qui sont à l'étranger, eh bien du coup, seront identifiées, ne pourront pas se faire croire qu'elles sont françaises. Donc on nous dit qu'à la fois, on est appelé de l'étranger et on nous dit qu'on veut sauver l'emploi en France. Bref, on a de faux arguments pour ne pas mettre fin au malaise que subissent les consommateurs jour après jour. Ce sont, encore une fois, je suis stupéfait que l'intérêt général des consommateurs soit mis à mal par rapport à un lobby. On ne sait même pas combien d'emplois. C'est complètement pas
expertisé.
Et ce que je voudrais dire, c'est que oui, il y a eu des discussions au Conseil national de la consommation. Et toutes les associations étaient unanimes pour demander l'opt-in. Et à défaut d'opt-in, d'avoir un opt-out, c'est-à-dire l'inverse, mais avec des conditions de dérogation extrêmement strictes.
Je vois qu'on n'arrivera pas.
La proposition de loi.
On n'arrivera pas à vous mettre d'accord ce soir.
Du Conseil national de la consommation.
On va laisser la parole aux auditeurs.
Parce que les associations de consommateurs, ce qu'elles souhaitaient, n'a pas du tout été pris en compte.
On a bien compris, Alain Bazot, président de l'UFC Que Choisir, et Christophe Nejlen, le député d'Hiver 3 des Vosges, que sur ce sujet des listes de ceux qui souhaitent être appelés, ce qu'on appelle le opt-in, on n'aura pas le consensus sur ce point précis ce soir. Cela dit, Christophe Nejlen, cette liste des personnes qui accepteraient d'être appelées, ça marche en Grande-Bretagne comme aux États-Unis. Alain Bazot, le président de l'association UFC Que Choisir, dit que ça ne marche pas en France à cause des lobbies qui freinent des deux pieds. Vous en faites partie, mais de quel lobby parle-t-il à votre avis? On va lui poser la question après, plus précisément. Alors, Christophe Nejlen, en ligne des Vosges. Oui, on vous entend, allez-y.
Non, alors, en fait, très honnêtement, aucun lobby. Il faut uniquement faire preuve de pragmatisme. Si vous regardez bien, sur ce sujet-là, moi, j'ai déposé deux propositions de loi. J'en ai déposé une en 2017, où justement, à brûle-pourpoint, et quand la première fois on m'avait parlé de cette problématique, je parlais de l'opt-in. Et après, j'ai continué à faire des auditions, à me renseigner, à visiter des centres d'appel, à voir exactement comment ça marchait. Et c'est de mon fait, avec aucun lobby. Vraiment, mais à un moment donné, il faut arrêter avec ce fantasme des lobbies.
Mais expliquez-moi pourquoi ça marche en Grande-Bretagne, pourquoi ça marche aux États-Unis et pourquoi ça ne marcherait pas en France. Vous opposez la question des emplois.
Comparaison et pas raison. comparaison et paraison, on n'a pas du tout le, on ne fonctionne pas du tout pareil. Le démarchage ne fonctionne pas pareil. Les entreprises ne sont pas pareilles. La réglementation n'est pas la même non plus sur la liberté des données. Donc à un moment donné, il faut arrêter de comparer avec les autres pays, mais plutôt essayer de voir ce qui marche, ce qui pourrait marcher chez nous. La réalité des choses, c'est que si demain vous dites, on demande à l'autorisation des personnes pour les appeler. Très bien, très bien. Par contre, il y aura toujours des ventes de fichiers, et ça, vous l'avez, monsieur de l'UFC Que Choisir qui l'a reconnu tout à l'heure. Donc, ces ventes de fichiers-là, elles continueront à se faire d'une manière ou d'une autre, et donc les entreprises qui le font de manière illégale continueront à le faire. Et c'est pour ça qu'il faut, et là je suis d'accord avec l'UFC Que Choisir, il faut qu'on ait un opt-out beaucoup plus restrictif, et c'est ce qu'on essaye de, et surtout avec des, pouvoir avoir des sanctions beaucoup plus fortes et que ce soit beaucoup plus encadré. Et c'est pour ça que ce qu'a proposé l'ARCEP, moi ça m'enchante pas plus que ça. J'ai juste dit que c'était un pas qui était plutôt positif. Mais demain, cette chose-là, il faudra le mettre dans la loi et qu'il y ait des sanctions pour ceux qui ne le font pas.
Eh bien, on va parler des sanctions, justement. Voilà. Merci Christophe Nejlen. Il est 19h38 sur France Inter et nous parlons de l'abus des appels téléphoniques au démarchage à domicile jusqu'à 20h.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
Alors on parlait tout à l'heure de Bloctel, hein, ce dispositif qui impose aux sociétés de démarchage par téléphone de consulter la liste des appels, la liste des abonnés qui ne souhaitent pas être appelés. Cela dit, donc Bloctel, ça sous-entend que chaque société d'appel fasse une démarche préalable pour obtenir la mise à jour des listes Bloctel. Est-ce que les sociétés le font toutes, cette consultation et cette mise à jour, Alain Bazot ?
Sans doute pas, parce qu'il y avait eu des centaines de milliers de plaintes de consommateurs qui n'ont jamais été traitées, puisque évidemment même la DGCCRF, l'autorité qui doit faire respecter les règles de droit de la consommation, n'a pas les moyens de surveiller tout et de mener des mesures d'investigation et de prononcer des sanctions. Donc les sanctions sous l'empire de la loi Hamon, ça devait être 75 000 euros d'amende, n'est pas dissuasif. Donc cet aspect-là, je crois qu'il est renforcé dans la proposition de loi. Mais la vraie difficulté, elle est pas dans les sanctions que dans qu'est-ce qui est permis et pas permis pour les entreprises. Parce que aujourd'hui, on sait que si on s'inscrit normalement sur Bloctel, on peut plus être démarché. Sauf si on est en relation contractuelle avec l'entreprise. Et j'aimerais savoir. Et ça, il y a un flou là-dessus pour savoir qui finalement a le droit de me démarcher. Il y a un flou considérable, quelque chose qui n'était pas très clair dans la loi Hamon, qui dans la pratique s'est considérablement ouvert, c'est-à-dire relations contractuelles, est-ce que c'est passé, etc., avec les filiales, etc., et le fait que je change par exemple souvent d'opérateur de fournisseur d'électricité ou de FAI ou d'autres, fait que j'ai eu un jour une relation contractuelle et ça va autoriser à ce que je sois démarché. Donc en clair, ce que je veux dire, c'est que le système proposé par Hamon et qui n'est pas corrigé par la proposition de loi, c'est que si je m'inscris sur Bloctel, je ne suis plus démarché, sauf exception. Et j'aimerais bien que le député s'explique sur les exceptions.
On va lui poser la question, Alain Bazot.
On ouvre la boîte de Pandore. Et c'est là que se niche le vice de la proposition de loi qui n'améliore pas les choses pour les consommateurs.
Alors Christophe Nejlen, député d'Hiver Droite des Vosges et qui est à l'origine de la loi qui veut encadrer le démarchage téléphonique. Deux questions en une. D'abord, est-ce qu'il y a beaucoup de sociétés qui ne respectent pas sciemment le dispositif Bloctel? Et puis dans un deuxième aspect, vous répondrez à la question d'Alain Bazot. Christophe Nejlen.
En fait, la première question est la question essentielle, dans le sens où aujourd'hui, il y a uniquement entre 850 et 1000 entreprises qui utilisent Bloctel, qui bloctelisent leurs fichiers. Et c'est là où on a une vraie problématique. Pour plusieurs raisons, certaines entreprises nous disent « Ah ben oui, mais s'inscrire sur Bloctel, c'est cher. » Donc, il y a cet aspect un peu dissuasif parce que c'est trop cher de le faire. Il y en a d'autres qui nous disent « Ah ben, au vu des sanctions, on ne prend pas grand risque à ne pas le faire au vu du coût. » Donc, ça, sur ce sujet-là, on doit impérativement travailler et dire « Une entreprise qui fait du démarchage téléphonique, elle doit obligatoirement bloctéliser ces fichiers. Ça doit être une obligation claire et nette.
L'amende n'est pas dissuasive aujourd'hui.
L'amende n'est pas dissuasive. L'amende est de 60, peut aller jusqu'à 75 000 euros. On la monte jusqu'à 360. Bah, dans le cadre de cette nouvelle proposition de loi,
elle montera combien ?
375 000 euros.
La question d'Alain Labazo ensuite, c'est de savoir quelles entreprises précisément ont le droit de faire du démarchage téléphonique à domicile.
Et alors ça, c'est un point qui est extrêmement compliqué. Entre la version de l'Assemblée et la version du Sénat, il y a eu des modifications. Ça, c'est un sujet sur lequel, avec l'UFC, on discute aussi, et j'arrive très bien à discuter avec Monsieur Musso, dans le sens où, oui, c'est cette question de relations contractuelles préexistantes, et qui est dire, quand on est client d'une entreprise, est-ce qu'on appartient, est-ce que notre numéro de téléphone appartient à cette entreprise ? Et il y a la question de l'objet et de la durée. C'est-à-dire, si j'ai acheté des pneus, par exemple, dans un garage, est-ce que ce garage-là a le droit de me démarcher pour la vidange, pour faire un contrôle technique, ou c'est uniquement pour changer les pneus la prochaine fois? Et pareil, est-ce que, si c'est dans le cadre d'une filiale, je suis client d'une des filiales, est-ce que les autres filiales ont le droit ou pas de me démarcher?
Et est-ce que la proposition de loi va clarifier tout ça en 2020?
Eh ben, en tout cas, j'ai fait une proposition en demandant à ce que ce soit limité dans le temps, clairement. Donc, c'est-à-dire que 6 mois après la fin de la relation contractuelle préexistante, donc à 6 mois après la signature du contrat, on ne puisse plus démarcher la personne.
Pourquoi ? Merci. Parce que c'est Merci Christophe Desjeunes, parce qu'on est obligé de faire un peu rythmer aussi pour laisser la parole aux auditeurs. Et puis il y a Alain Bazo, le président de l'association UFC Que Choisir, qui veut vous répondre précisément sur cet aspect du dossier.
Oui, ben c'est le cœur névralgique du sujet. C'est vrai qu'il y a des discussions avec nous, mais on n'obtient pas gain de cause pour une clarification. La loi Hamon avait un élément qui n'était pas clair sur la relation contractuelle préexistante, et là, la proposition de loi ne met pas fin à ce flou artistique sur les possibilités ou non démarcher le consommateur qui a déjà été en contact avant avec le professionnel ou avec une de ses filiales. L'inefficacité annoncée du nouveau dispositif, qui ne va pas être nouveau, qui va entériner des pratiques antérieures. Donc c'est plus un recul qu'une avancée. Et ça, on en a absolument la certitude. Et dans la mesure où la frontière est floue sur ce que peut faire le professionnel, ce qu'il ne peut pas faire, avec des choses, le député l'a dit lui-même, c'est horriblement compliqué. Si c'est compliqué, s'il le veut bien, alors qu'on peut faire des choses simples, sans être démagogique. Et du coup, vous voyez bien que quand il y a des problèmes de frontières, vous avez beau mettre des belles sanctions, si la frontière n'est pas délimitée, la sanction ne tombera pas. Parce qu'en matière pénale, il faut une interprétation stricte. Et donc, si on n'est vraiment pas dans les clous, là, il y a sanction. Si on n'en est pas sûr, il n'y aura jamais de sanction.
Merci, Alain Bazo.
C'est tellement compliqué que je vois pas comment.
Et quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Merci.
Va faire des contrôles pour vérifier que les entreprises sont dans les clous ou pas dans les clous.
Alain Bazo et Christophe Nejlen. Je vais vous demander de faire des réponses un peu plus courtes pour qu'on puisse donner la parole aux auditeurs. J'ai un mail d'Annick d'Aix-la-Chapelle qui parle des exemples à l'étranger. Elle cite le cas de l'Allemagne où le démarchage téléphonique, dit-elle, est tout simplement interdit et ça marche. Est-ce que c'est la réalité, Christophe Nejlen? En Allemagne, le démarchage téléphonique est tout simplement interdit?
Alors, en Allemagne et dans certains autres pays, notamment dans le Nord, je crois que c'est au Danemark aussi. Donc oui, en effet, il y a certains pays étrangers, mais encore une fois, et c'était votre question tout à l'heure, il faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Je vais juste revenir très rapidement sur la relation contractuelle préexistante.
Je pense que ça devient technique pour l'auditeur en même temps. Je pense que vous faites un débat de technicien en ce moment.
Non, mais un point très simple, c'est la minorité des appels intempestifs. Donc cet article-là, où on entend l'UFC qui dit « Ah bah oui, mais ça rend inapplicable, ça ne sert à rien », c'est une minorité des appels intempestifs. Donc à un moment donné, je pense pas que c'est ça qui va rendre la loi inapplicable ou inopérante.
Allez, 01 45 24 7000 avec une question de Georges qui nous appelle de l'Isère. Bonjour Georges, bonsoir.
Bonjour France Inter. Voilà, moi j'ai un autre souci. Je suis hôtelier-restaurateur dans le Vercors. Et quand je réponds au téléphone, je suis obligé d'être correct, d'être poli, et moi mon rêve, ça serait de pouvoir les envoyer balader. Mais sur 5 coups de téléphone, il y a une publicité, il y a un démarchage, Et je peux pas dire, vous commencez à me... Voilà, je suis obligé de
casser
dire,
les pieds.
Bonjour messieurs, dames, oui. Est-ce que c'est pour le restaurant, est-ce que c'est pour l'hôtel? Et j'ai des collègues qui sont plombiers, charcutiers, bouchers, boulangers, ils ont le même problème que moi. Quand on est en plein coup de feu, quand on est en plein travail, quand on est en train d'accueillir des clients, le téléphone sonne, bonjour, c'est pour n'importe quoi, et c'est une catastrophe.
Et nous, vous souhaiteriez... Vous souhaiteriez quelle solution? Vous inscrire à Bloctel, par exemple? Vous l'avez fait?
Je suis déjà inscrit à Bloctel. Je suis sur la liste rouge, mais c'est quand même un numéro commercial. C'est ma raison de. C'est un outil de travail de téléphone. J'ai le même problème avec les mails. J'ai le même problème avec plein de choses.
Et on a beaucoup de témoignages ce soir qui vont effectivement dans votre sens, Georges, hôtelier, restaurateur dans l'Isère. Christophe Neigelen, j'imagine qu'il y a pas mal de réclamations chez Bloctel, puisque notre auditeur est inscrit à Bloctel. Il est sur liste rouge. Bloctel qui ne marche pas. Pas mal de réclamations que j'imagine pour non-respect de cette liste rouge. Que deviennent les réclamations chez Bloctel? Est-ce qu'elles sont toutes traitées? Parce qu'il y a du monde.
Alors, elles sont traitées, mais encore une fois, la majorité de ces appels-là proviennent d'entreprises qui ne sont pas inscrites sur Bloctel. Donc, on peut montrer Bloctel du doigt, et d'ailleurs, c'est un article de la proposition de loi, j'ai demandé un audit complet de Bloctel, mais néanmoins, c'est toutes des entreprises qui ne s'inscrivent pas sur le dispositif. Donc, à un moment donné, ça passe à travers les mailles du filet. Je le répète, 850 à 1000 entreprises uniquement inscrites sur le dispositif Bloctel. Donc, il faut impérativement qu'on oblige les entreprises à s'inscrire sur le dispositif Bloctel et à sanctionner beaucoup plus fortement celles qui ne le font pas. Et à ce moment-là, on aura des résultats concrets.
Allez, parole à l'auditeur ce soir sur France Inter avec Philippe qui nous appelle de Saint-Maur-des-Fossés. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Vous aviez une question ou un témoignage ?
Témoignage. Ma mère a 86 ans, elle vit seule, elle a une maladie d'Alzheimer et elle subit un démarchage téléphonique insistant de la part d'une opératrice qui, d'une manière fort autoritaire, lui demande d'appeler un numéro en 08 pour un sujet important. Et donc ce qu'elle fait, si elle manque du discernement nécessaire pour juger effectivement de ça, et donc ça nous a coûté, sur deux périodes de facturation, plus de 600 euros.
Oui, effectivement.
Donc j'ai réglé le problème temporairement, dirais-je, en faisant changer le numéro de téléphone. Mais voilà, donc c'est quelque chose d'absolument, des manières absolument répugnantes, d'user comme ça de d'une personne en situation de faiblesse. Et j'ai donné ces informations à la DGCCRS, à la Direction de protection des personnes.
La répression des fraudes.
Voilà, la répression des fraudes, qui m'a dit qu'il classait mon dossier sans que je sache très bien ce que ça veut dire. Et voilà, donc je voulais à la fois témoigner et puis peut-être vous demander comment je pouvais intervenir pour récupérer cet argent, si c'est
tant... Alors récupérer cet argent, je ne suis pas sûr qu'on puisse vous répondre, mais en tout cas, approfondir la question avec le député des Vosges, Christophe Neigelen, qui est à l'origine de la loi qui veut encadrer le démarchage téléphonique et aussi lutter contre les appels frauduleux, parce qu'on parle du démarchage commercial abusif, mais on n'a pas encore évoqué l'autre sujet, ce sont les escrocs qui multiplient les appels à domicile pour vous extorquer de l'argent. Là encore, c'est un phénomène répandu, Christophe Neigelen.
Oui, c'est un phénomène qui est répandu, qui l'est moins que les appels intempestifs, mais qui a des conséquences presque beaucoup plus graves, et notamment pécuniairement. Et c'est le témoignage de votre auditeur est flagrant. C'est qu'à un moment donné, et c'est pour ça que j'ai dans cette proposition de loi, il y a deux articles qui vont traiter de ces cas précis, qui n'avaient pas de cadre légal jusqu'à présent. Et dans cette proposition de loi, on dit clairement, dès l'instant où il y a un certain nombre de personnes qui font remonter qu'un numéro de téléphone les appelle de manière frauduleuse, l'opérateur pourra couper la ligne. Et le deuxième article est dire, dès l'instant où il y a un référé de la DGCCRF, donc comme la personne là qui vient de contacter la DGCCRF, eh ben demain l'opérateur sera obligé de couper la ligne du numéro frauduleux. Et à aujourd'hui, il n'y avait pas de cadre légal. Donc là, ça serait une vraie avancée. Et même l'UFC Que Choisir, avec qui on avait travaillé dessus, trouvait que c'était pour le coup une bonne chose, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de cadre légal.
Alain Bazot, président de l'UFC Que Choisir, faire couper les lignes téléphoniques aux escrocs qui multiplient les arnaques au téléphone. Est-ce que les opérateurs téléphoniques vous semblent coopératifs pour aller dans cette voie?
Écoutez, là, je sais pas, faudrait les interroger, savoir dans quelles dispositions ils seront. C'est sûr que si on renforce les sanctions, cette partie de la loi peut être intéressante. Cela dit, je voudrais rappeler que précisément l'enjeu du démarchage téléphonique, c'est que effectivement, il est le cheval de Troie à un certain nombre d'arnaques et de litiges. Il faut savoir qu'on a une augmentation exponentielle des litiges qui viennent du démarchage téléphonique. Donc c'est vraiment la voie royale pour avoir des litiges, et pas forcément des arnaques d'ailleurs, mais des problèmes d'exécution, mauvaise exécution, des entreprises qui vont mettre la clé sous la porte, donc c'est pas forcément de l'arnaque au sens où on l'entend au sens propre du terme, mais des entreprises qui ne respectent pas leurs obligations suite à des souscriptions de contrats comme ça par téléphone. Et on se rend compte qu'il y a une corrélation extrêmement forte entre les entreprises qui font du démarchage et les litiges qui sont dans nos 150 points de permanence. On gère à peu près 100 000 litiges avec nos associations locales. Mmh. Donc on a une corrélation extrêmement forte. Et les secteurs qui sont les plus pourvoyeurs de litiges avec les consommateurs, ce sont les secteurs qui démarchent le plus. Donc c'est pour ça qu'en réglant le problème du démarchage intempestif, on règle du même coup non seulement l'enjeu de la tranquillité, des gens qui n'en peuvent plus, et ça, il faudra peut-être quand même que la représentation nationale entende un jour les consommateurs et les citoyens, mais ça règle en même temps le problème des litiges, voire des arnaques qui se font par ce démarchage.
Vous en appelez à la représentation nationale, bah justement. Christophe Nejlen, député d'hiver droite des Vosges, votre point de vue là-dessus ?
Par rapport à votre question, en fait, les opérateurs, il faut savoir que les opérateurs touchent 25% à peu près de la somme qui est prélevée dans le cadre d'appels frauduleux. Et c'est pour ça que quand vous dites les opérateurs sont-ils prêts à jouer le jeu, les quatre gros, on va dire, oui, parce que ça a un impact notamment que dans cette proposition de loi, on va mettre des listes naming and shaming, donc c'est-à-dire nommer les personnes, clairement celles qui ne respectent pas la loi, de telle manière à faire entre guillemets de la mauvaise pub. Mais par contre, on a beaucoup de petits opérateurs, et ben c'est leur gagne-pain. C'est une partie de leur gagne-pain, et c'est pour ça qu'il faudrait être très strict, et tous les opérateurs qui ne respecteront pas, qui ne couperont pas les numéros dès l'instant où la DGCCRF leur aura signalé, encourront des pénalités qui seront plutôt très fortes.
01 45 24 7000 avec un appel d'Agnès. Bonsoir Agnès.
Bonsoir.
Quelle est votre question ou témoignage ?
Alors mon témoignage, c'est qu'en ce moment, on est harcelé pour l'isolation des maisons à 1 euro. Ça peut être 5 ou 6 fois par jour, et c'était un message enregistré, donc on n'a même pas le plaisir d'avoir quelqu'un de vivant. Et ce que je ne comprends pas, c'est que cette isolation à 1 euro, on peut l'avoir grâce à des primes d'État. Donc en fait, c'est l'État qui me harcèle.
Donc je ne sais pas si c'est l'État qui vous harcèle, mais en tout cas, quelqu'un se fait passer, puisque on a pas mal d'appels, également par mail, Marie de Provence qui nous dit que ceci, elle fait le même témoignage que vous en précisant à la fin du message que ceci est un message du ministère de l'Environnement, dit le message enregistré. Christophe Nejlen ou Alain Bazot pour commencer. Est-ce que ce sont des messages frauduleux? Alain Bazot?
Oui, bah clairement oui, c'est l'effet d'aubaine. Chaque fois qu'il y a un dispositif fiscal, il y a des margoulins qui s'engouffrent là-dedans en faisant croire qu'avec l'aide fiscale, le retour sur investissement, ça sera tout de suite, que ça va rien coûter, que sera 0 ou 1 euro. Donc ça, c'est assez classique. Dès qu'il y a des mesures incitatives de l'État, il y en a qui surfent sur ça de façon frauduleuse, parce qu'en général, c'est faux, tel que les choses sont présentées, et on fait souscrire de façon dolosive les consommateurs. Donc, c'est pas l'État. L'État, il est responsable d'avoir mis en place un certain nombre de dispositifs, mais la vocation, c'est qu'il ne soit pas détourné. Et quand il y a quelque chose, le fait que ce soit détourné par des escrocs ou des entreprises qui souvent, vous savez, sont éphémères, hein, c'est pas des grandes entreprises qui sont sur la place.
Et elles disparaissent aussi vite qu'elles sont nées, j'imagine.
La fraude à un dispositif d'État.
Alors, pas mal de questions assez précises, hein, et des réponses aussi précises, j'espère, de votre part. Par exemple, sur les conditions de travail des téléopérateurs qui appellent et qui se font souvent rembarrer toute la journée, est-ce qu'ils sont la plupart du temps à l'étranger et combien gagnent-ils ? Est-ce qu'on le sait, Alain Bazot de l'UFC Que Choisir ?
Ah non, je suis désolé, je suis pas un spécialiste des conditions de travail spécialiste des conditions des consommateurs.
Alors je pose la...
Les traites, mais pas les salariés.
Je pose la question à Christophe Nejlen, qui a beaucoup étudié ce dossier. Où sont ces plateformes téléphoniques et qui y travaille précisément?
Alors, il y en a qui sont situées dans les pays du Maghreb et d'autres beaucoup plus loin, voire dans des pays asiatiques. Après, celles qui sont situées en France respectent le code du travail français. Néanmoins, c'est un métier qui n'est pas un métier facile parce que, comme vous dites, il y a une certaine, d'un côté, une pression pour avoir du résultat et de l'autre, on tombe sur des consommateurs qui sont excédés et donc, à juste titre, et donc qui ont tendance à envoyer balader les personnes qui les appellent. Donc, c'est plutôt très compliqué, mais on respecte le droit du travail français. Après, dans les autres pays, forcément, quand vous parlez de pays du Maghreb, le niveau de rémunération est bien moins élevé que ce qu'on peut trouver en France.
Pas mal de témoignages également par courriel sur le harcèlement et cette question qui suit. Est-ce que l'on peut porter plainte pour un harcèlement téléphonique et contre qui? Alain Bazot, UFC Que Choisir?
Ben, contre qui? Il faudrait pouvoir identifier la personne physique ou la personne morale, ce qui est loin d'être le cas. Donc après, effectivement, déposer plainte, il faudrait voir si c'est vraiment du harcèlement, il faut rapporter la preuve. Vous savez, en matière pénale, la voie est étroite. On appelle harcèlement, c'est pas simplement d'avoir reçu 2-3-4 coups de fil. Il faut vraiment que ce soit caractéristique avec un certain nombre d'éléments dont il faut rapporter la preuve. Après, ça peut se traduire par une plainte contre X, si on ne peut pas savoir qui est l'auteur, ce qui est la plupart du temps le cas. Donc c'est une voie sur le plan individuel qui est quand même très compliquée. Il faut dénoncer ça à une association qui regroupe les victimes et après... Il y a un faisceau d'indices qui fait que quand on se regroupe, l'administration qui est en charge de poursuite, elle va avoir une oreille plus attentive. Si c'est en ordre dispersé, chacun qui fait son témoignage, c'est tellement massif que de toute façon l'administration, la direction consommation répression des fraudes, elle est complètement submergée. En plus,
question.
Elle a ses effectifs qui fondent comme neige au soleil, je veux dire, elle est plus en capacité de poursuivre. Donc c'est là aussi la difficulté et l'enjeu de réguler en amont et pas attendre qu'il y ait des sanctions qui sont assez improbables.
Il nous reste une minute avant 20h. Question de Catherine de Bois-le-Roi. Qu'est devenue l'idée d'interdire le démarchage téléphonique durant certaines plages horaires de la journée, Christophe Nejlen?
Alors justement, dans la proposition de loi que je porte, je le demande, parce que toutes les entreprises signent une charte déontologique et qu'on ne puisse plus appeler du temps de midi, qu'on ne puisse plus appeler le soir, parce que c'est des moments de famille et c'est des moments qui sont personnels. Donc dans le cadre de cette proposition de loi, c'est en effet demandé, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Allez, quelques secondes encore à propos des listings. Est-ce que les sociétés se revendent les listings de nos numéros de téléphone avec nos goûts de consommation et nos horaires pour être joignable? Alain Bazot, en 10 secondes, oui ou non?
Oui, très clairement. Et puis la charte déontologique, ça veut dire que c'est le bon vouloir et il n'y aura pas de sanctions.
Eh bien,
donc,
merci pour cette réponse.
C'est pas la joie.
Rapide. Merci beaucoup, Christophe Nejlen, député d'hiver droite des Vosges. Votre proposition de loi sera étudiée début janvier, je pense, c'est bien ça?
Tout à fait, exactement. Il est en deuxième lecture.
Merci Alain Bazot, président de l'UFC Que Choisir. Merci à la réalisation Anna Buy. À la technique ce soir, il y avait Tristan Gratalon et Arnaud Caillé. À la préparation de l'émission, Pierre de Certaines, Emma Ferré, Mathilde Sourd. Demain soir, on parlera de l'impact écologique d'Internet dans le téléphone sonne. France Inter, bienvenue, il est 20h.